RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Une fois par mois, le mardi dans Je pense donc j'agis, on regarde dans le rétroviseur pour se pencher sur quelques sujets de l'actualité écologie du mois écoulé avec des observateurs experts pour la commenter. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Nous allons aborder jusqu'à 10h plusieurs sujets. Vous nous donnez le sommaire?
Alors on commencera dans un instant par évoquer les débats autour de la corrida, puisque c'est le sujet choisi par Stécie Algrin pour sa chronique aujourd'hui. Et puis nous reviendrons sur le gros sujet lié à l'écologie pendant ce mois de novembre. Il s'agit de la COP27. Ensuite on essaiera d'y voir plus clair sur le dossier des méga-bassines. Sujet technique, mais aussi hautement symbolique des débats que notre société va devoir avoir sur l'usage de l'eau. Et cela nous amènera également à évoquer les nouvelles formes de militantisme et les réactions que cela suscite.
Et dans la seconde partie de l'émission, quelques jours après le fameux Black Friday, nous verrons comment changer nos modes de consommation. Exemple à l'appui, ce sera à 10h. Et pour participer, vous le savez, Je pense donc j'agis, vous nous appelez dès maintenant au 04 72 38 20 23. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On y va.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et deux intervenants sont avec nous pour commenter l'actualité du mois.
Oui, d'abord Justine Guiton-Boussion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Reporter, le quotidien de l'écologie qui publie chaque jour des articles en ligne. Et l'adresse, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est reporter.net. Et puis Adrien Loindre, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste dans la matinale RCF le lundi à 7h55, militant du MRJC, le mouvement rural de jeunesse chrétienne, et plus globalement un jeune chrétien engagé en écologie et un théologien en herbe.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette émission. Et comme chaque mardi, on commence par la chronique Tout est lié. Et ce matin, nous accueillons Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Bonjour.
Alors, ce sont les débats autour de la corrida qui ont retenu votre attention dans l'actualité du mois de novembre.
Oui, il est 9h03, installé confortablement dans l'open space ou dans le métro, déjà arrivé du week-end et du sentiment de liberté qu'il vous procure, vous avez, comme tout Français qui se respecte, trempé votre tartine dans une tasse de café. Sur le chemin du boulot, vous êtes passé devant la boulangerie du quartier en humant les odeurs de la baguette qui sort du four et des croissants frais au bon beurre. Ce soir, votre to-do list terminée et l'heure des regards accusateurs passés, vous rentrerez chez vous. Avec un peu de chance, vous serez pile à l'heure pour l'apéro. Là, si vous avez bien suivi mon introduction, j'ai progressivement listé quelques-unes des traditions françaises les plus emblématiques. Et d'ailleurs, les traditions de notre pays sont régulièrement au cœur de polémiques. Remises en question par les uns, défendues corps et âme par les autres. Souvenez-vous, l'année dernière, les méchants écolos voulaient gâcher Noël en nous retirant nos sapins et notre foie de canard malade. Puis là, entre une crise énergétique et les galères de pouvoir d'achat, c'est Émeric Caron, député de gauche, qui a voulu remettre ça.
Et je vous vois venir, on en vient donc au sujet de la corrida.
Si, si, señora. Le député avait proposé un amendement visant à interdire la corrida avant de devoir se raviser. Groupe chiite qui devrait ravir les défenseurs de cette pratique, ou que dis-je, cette tradition ancestrale. Les quelques opposants, 75% des Français, ne seraient que des bobos déconnectés n'ayant jamais vu la beauté de ce spectacle. À force de se nourrir de graines et de tofu, leur cerveau atrophié ne parviendrait plus à faire la différence entre acte de torture et protocole de fin de vie. Mais ouais, enfin vous comprenez pas quoi. Après 5 joyeuses années à kiffer au grand air, ces taureaux ont une chance unique. Tirer leur révérence devant une foule en délire. Pour les accompagner au paradis des taureaux, on leur met des petits pics tout colorés sur le dos et on chante et on tape des mains. Et vas-y que la fanfare met l'ambiance, taureau. Non mais franchement, nos enterrements à côté, c'est vraiment naze. C'est sûr, il y a un petit peu de sang, mais en vrai ça va. Tenez, moi par exemple, j'ai assisté une fois à une corrida. J'ai failli vomir. Mais franchement, c'est pas du tout parce que les taureaux crachaient du sang ou que des vieux gars s'acharnaient à essayer de faire rentrer des broches à kebab dans leur tête. Non, je pense que c'est parce que je suis une femme. Et c'est fragile, une femme, vous savez. Faudrait pas que ça nous donne l'envie d'interdire une tradition aussi importante. À l'époque, déjà, on a dû interdire l'écartèlement normand et l'empalement limousin. Voyez où ça nous mène, ces conneries de droits humains et de bien-être animal. En quelques années, on finira par se demander amèrement, est-ce que ce monde est sérieux ?
Merci beaucoup, Stécial Grain. Tout est lié, une chronique à réentendre en podcast sur rcf.fr. Et sur le sujet de la corrida, vous avez la parole au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. En tout cas, ça donne du biscuit, hein, comme on dit, Anne.
Oui, je vois déjà Adrien Loindre réagir en levant le pouce. Adrien, qu'est-ce qui vous a plu dans cette chronique, puisque visiblement, elle vous a beaucoup plu?
Ah non, mais parce qu'elle a, elle a complètement raison. Et moi, je voudrais rajouter un petit point qui me questionne, c'est que la corrida est interdite dans énormément, j'ai pas le chiffre exact, énormément de départements français. Et alors, je veux bien qu'il y ait des traditions locales, etc., etc. Mais enfin, je suis peut-être pas aux dernières nouvelles, mais l'article 1 de la Constitution, c'est que la France est une et indivisible. Donc ça me questionne toujours quand il y a des, que je comprends qu'il y ait des particularités locales. Enfin là, une particularité locale dans l'Alsace-Moselle, je veux bien une particularité locale sur le fait qu'il faille tuer des taureaux. Bon, voilà. Non, je rejoins complètement Stécy. Si on, en fait, l'argument de la tradition, bon, non, enfin pour moi, il tient pas. Pour moi, c'est pas possible parce que sinon, effectivement, Stécy sur son axe, en gros, c'était si on garde la tradition à chaque fois, il n'y a pas de droit de l'homme. Bah, c'est, non, je suis complètement d'accord. Il y a vraiment de ça. Et puis, on peut pas juste dire que c'est juste trois bobos et Émeric Caron. Enfin, j'ai entendu des députés qui nous expliquaient que parce qu'Émeric Caron, il parle un petit peu fort, du coup, ça nous donne pas envie de voter son amendement. Enfin, fou.
Alors, bref, mais voilà. Le fait de rapprocher, je pense que certains auditeurs et puis plus largement certaines personnes réagissent à l'idée de rapprocher droits humains et bien-être animal en disant c'est quand même pas exactement la même chose.
Certes, bien sûr, mais je pense, en tout cas, je suis intimement convaincu que plus on va avoir un comportement justement humain envers les animaux, c'est-à-dire ne pas les traiter comme une simple ressource minière, qu'on pourrait traiter une ressource minière, par exemple, plus on devient pleinement humain, et je ne pense pas que ça fasse avancer l'humanité de d'éviscérer des taureaux dans une arène pour une société du spectacle, et c'est pas comme si on avait autre chose en plus comme spectacle. Alors je sais bien, on va me dire justement c'est de la tradition, ça n'a rien à voir, mais enfin voilà, puis c'est pas comme si on allait éviscérer toutes les traditions françaises, je pense qu'il en reste suffisamment. Voilà, non, c'est un autre âge pour moi, la corrida.
Justine Guiton-Buisson, à la fois sur la corrida et puis sur la manière de Stécy d'aborder la question, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire?
J'ai trouvé la chronique de Stécy très intéressante parce que c'est justement cet argument de tradition qui devrait excuser le fait de mettre à mort régulièrement des animaux dans certains endroits, dans certains départements, alors que 10 kilomètres plus loin, c'est interdit, puisque officiellement, c'est dans toute la France que c'est interdit. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas interdit dans certains départements en France et autorisé dans d'autres. C'est interdit dans toute la France et il y a une dérogation dans certains départements. Et donc, l'argument qui est mis en avant, c'est que c'est la tradition qui excuserait tout. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce dossier, c'est que c'est une nouvelle vision de l'écologie, encore un petit peu minoritaire, qui est arrivée à l'Assemblée nationale avec cette histoire. C'est une vision antispéciste. Alors, Émeric Caron, ce député, de la France insoumise, ne s'en cache pas, il est antispéciste. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre les animaux humains, nous, et les animaux non humains, ce qu'on appelle d'habitude les animaux. Il l'assume, mais c'est pas quelque chose qui est partout dans la France insoumise. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à lui. Et donc cette vision de l'écologie, ça nous permet de repenser notre rapport au vivant et de nous dire les animaux, ils ne sont pas sur cette terre pour nous nourrir. Ils ne sont pas là pour nous divertir. Et de fait, je trouve que c'est intéressant que cette vision soit apparue à l'Assemblée nationale, même si c'est dommage que le débat ne soit pas allé jusqu'au bout, puisque finalement, il n'a même pas pu présenter cette proposition de loi dans l'hémicycle. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est ça, en fait, que je retiens plus que est-ce qu'il faut interdire les traditions. En fait, c'est pas ça la question, parce que de toute manière, les traditions ne devraient jamais avoir la priorité sur la cruauté.
Mais cette question-là du rapport au vivant, on sent bien qu'elle émerge, et pas seulement chez les antispécistes. C'est une question qui vient beaucoup dans le monde de l'écologie, peut-être pas encore dans la société globalement. Quelle est votre réflexion à tous les deux là-dessus? Comment le débat pourrait avancer et se jouer dans les mois et les années qui viennent sur cette question-là de renouveler notre rapport au vivant, ce qui semble être devenu une clé pour notre avenir, Adrien Loindre?
J'étais en train de penser, moi je me revendique pas antispéciste, ça va répondre à votre question. Maintenant, ce qui est très intéressant avec Aymeric Caron, c'est qu'il arrive à ouvrir des champs de réflexion sur lesquels on n'aurait pas forcément, sur lesquels les antispécistes permettent d'ouvrir une réflexion plus large sur le vivant. Et je pense notamment à la position du pape François dans Laudato Si, qui n'est pas antispéciste et qui en même temps va quand même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le pape François, avec toute cette idée autour de François d'Assise, va expliciter une vision comme quoi l'humain, la nature n'est pas faite, vous avez tout à fait raison, pour... en tout cas je l'ai lu comme ça, la nature n'est pas faite pour que l'humain puisse la piller, par contre l'humain en est le gardien, et vous allez relire Genèse 15 pour ceux que ça intéresse, Genèse 2.15 pardon, et puis l'humain en est le gardien, et puis avec cette vision de François d'Assise comme quoi tous les animaux sont, comme le dit Saint Bonaventure, vestiges d'amour du mystère trinitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a, si tous les animaux sont nos frères et sœurs, et ben je sais pas, enfin moi vous vous comportez pas comme ça avec des gens que vous considérez, avec des personnes non humaines que vous considérez comme frères et sœurs. Ça, c'était pour le point un peu théologique. Et puis, en 2015, a été votée une loi à l'Assemblée nationale sur le fait que les animaux étaient doués de sensibilité. Donc toujours pareil, enfin sur ce sujet de la corrida. Donc tout ça pour dire que ça avance un petit peu, et je pense que, enfin voilà, le mouvement de fond, il est sur, on va donner de plus en plus de droits aux animaux et aux végétaux, et je pense que c'est très bien. Et derrière ça, ça pose des questions très larges sur comment on va gérer une forêt, sur est-ce qu'on interdit ou non la pêche électrique, parce qu'en théorie c'est interdit, mais c'est plus compliqué que ça, etc., etc. Donc c'est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on je pense que c'est un nouveau rapport pour nous, des nouveaux types de liens à créer, etc. Et ça, c'est vraiment très très positif. Et on en a besoin plus que jamais, parce qu'on peut pas, en termes d'écologie, on peut pas se dire écologiste si on n'aime pas la nature. Moi, j'ai du mal quand on parle de respect de la nature, parce que si vous respectez quelqu'un, vous allez juste pas lui mettre une meuf, mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup beaucoup plus loin que ça. Et donc, il y a une question d'aimer la nature et de se sentir appartenir à cette nature. Si vous vous mettez hors d'elle, c'est pas possible, on peut pas aller très loin pour la préserver.
Justine Guitton-Voussion, sur la manière dont ces débats-là pourraient se poursuivre maintenant dans la société.
En fait, je vais me répéter, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment ce débat à l'Assemblée, parce que c'est pour certains, c'est vraiment très radical, l'antispécisme. Et c'est d'ailleurs, ça me fait penser que la semaine dernière, il y avait plus de 200 élus qui avaient publié dans le Journal du Dimanche une tribune pour défendre la corrida. Et ils disaient que c'était pas seulement défendre la corrida, c'était la défendre contre l'éco-totalitarisme. Et donc, du coup, on voit que dans cette question d'interdiction, dire une pratique qui, pour la majorité des Français, les sondages le montrent, qui pour la majorité des Français, cette pratique est cruelle. En fait, pour certains, ça veut dire encore et toujours interdire, supprimer, effacer les spécificités locales. Et dans cette tribune, il faisait le lien entre les polémiques sur les sapins de Noël, sur la chasse. Et donc du coup, c'est encore et toujours cette même vision de l'écologie qui est mise en avant, qui viserait à tout interdire, à être très répressive. Alors qu'en réalité, la question, c'est encore une fois de s'interroger sur notre rapport au vivant. Alors, j'ai écouté des interviews de Torero qui disaient qu'eux, ils aimaient la nature et qu'ils aimaient ces animaux. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il faut quand même qu'il y ait ces débats. Alors, ça peut être par encore d'autres débats à l'Assemblée nationale. Et plus globalement, je pense qu'il faut qu'on continue à en parler et pas penser que vouloir donner davantage de droits aux animaux, c'est en enlever aux humains et enlever la liberté des gens.
Brigitte nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour Melchior.
On vous écoute.
Alors donc, moi, je voulais apporter un témoignage parce que j'ai été invitée à une corrida, ce qui est un peu différent que si on y va de son propre chef, si vous voyez ce que je veux dire, parce que personnellement, j'aurais pas été. Et donc, cette corrida que j'ai vécue, alors d'une part, je vais dire comment la corrida, c'est effectivement une tradition ancestrale et qui est typiquement localisée, hein,
oui.
Puisque c'est lié effectivement au taureau. Ça, c'est pour donc effectivement.
Oui, c'est ce qu'on a dit Brigitte tout à l'heure. Oui, absolument.
Et par contre, moi, dans mon expérience, c'est une expérience qui était transformée en tragédie. Et parce que effectivement, la corrida, enfin, c'est mal passé, puisque le, enfin, ou mal ou bien, ça dépend dans quel sens on regarde les choses, parce que le taureau a complètement foutu en l'air, parce qu'il y avait un cheval, hein, il y avait, je sais pas comment ça s'appelle, donc il a foutu en l'air le cheval qui s'est retrouvé éventré, le toréador, enfin bref.
C'est parti en cacahuète, en tout cas,
Moi, j'ai hurlé parce que je ne supporte pas du tout cette violence.
Ah ouais, on peut comprendre.
Et donc, en plus, je me suis pris une paire de claques dans la manifestation.
Eh ben, super!
Donc moi j'étais complètement traumatisée par ce que je voyais, et je me suis retrouvée traumatisée une deuxième fois parce qu'on m'a mis une paire de gifles pour me remettre les idées en place, mais ça m'a pas du tout remis les idées en place.
Bon, en tout cas, on entend votre avis, Brigitte, sur la corrida. Ça me permet juste de vous dire que demain, dans Je pense, donc j'agis, de 9h à 10h avec Madeleine Vatel, on se posera cette question: les animaux sont-ils un divertissement comme un autre, hein? Et vous aurez de quoi témoigner d'ailleurs à l'antenne. Adrien, peut-être un commentaire sur ce petit témoignage de Brigitte.
Oui, très rapidement, mais c'est que, bon, je pense que tous les témoignages sont pas comme ça, mais on voit quand même que c'est un espèce de violence. Je sais pas, enfin, excusez-moi, je fais peut-être mon moralisateur à deux ronds, mais je pense pas qu'un espèce de violence comme ça puisse faire progresser la civilisation. Et puis pour rebondir sur ce que disait Justine très rapidement, oui, en fait, les mots sont hyper importants, et dans cette tribune-là, on en parlera tout à l'heure, mais on parle d'écoterrorisme, on parle là sur des... Enfin, vous vous rendez compte des mots qui sont utilisés? Enfin... Je sais pas, moi enfin c'est d'une, enfin pareil, les mots ont un sens, je suis désolé, et on peut pas parler de, je sais plus exactement Justine le mot qui était employé, mais c'est ça, c'est une violence incroyable, et je sais pas s'ils se rendent compte. Moi j'adore quand quelqu'un qui va interdire la corrida, on compare ça à quelqu'un qui a fait le Bataclan, je sais pas, la décence des gens qui utilisent ces mots-là, moi ça me débecte un petit peu.
Éco-totalitarisme, vous disiez là.
Éco-totalitarisme. Non mais attendez, mais éco-totalitarisme, moi je suis désolé, moi je suis spécialiste des camps de concentration, c'était mon sujet de mémoire pendant 2 ans sur les chrétiens dans les camps, non, juste non, je suis désolé, non.
Adrien, gardez votre motivation puisqu'on a encore 3 sujets à évoquer ce matin dans Je pense, donc j'agis, toujours avec vos témoignages au 04 72 38 20 23, on passe à la suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et nos deux invités ce matin, Justine Guiton-Boussion et Adrien Louandre, en direct dans cette première partie. On décrypte ce matin, vous l'entendez, l'actualité de l'écologie en passant au crible avec nos invités, quelques sujets d'actualité du mois. Et dans cette deuxième partie d'émission, on va revenir sur la COP27 qui s'est finie il n'y a pas très longtemps, hein, à Charm el-Cheikh, en Égypte. Anne Kerléau.
Oui, car si on en a pas mal parlé sur RCF, dans cette émission en particulier, pendant la COP, c'est intéressant d'y revenir à froid maintenant qu'elle est terminée et avec le regard de deux jeunes observateurs, observatrices. Les points de vue sur cette COP sont très partagés, contrastés. Certains pensant que c'est un échec, notamment parce que les énergies fossiles ne sont pas mentionnées dans le texte final, alors qu'elles sont la cause du réchauffement climatique. Et aussi parce qu'il n'y a pas eu de progrès sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et au contraire, d'autres soulignent l'avancée majeure que constitue l'accord sur la mise en place d'un fonds dédié aux pertes et dommages, c'est-à-dire aux conséquences déjà présentes du dérèglement climatique sur les pays du Sud. Alors commençons par évoquer ce point. Quel est votre regard sur la création de ce fonds? Il y a des participants ou des observateurs, par exemple le chercheur François Gémen, qui estime qu'on ne se rend pas compte, quand on dit que cette COP est un échec, de l'importance de la création de ce fonds parce qu'on a une vision occidentalo-centrée. Alors est-ce que de votre point de vue, il a raison? Est-ce que c'est vraiment une avancée majeure, Justine Guiton-Boussion?
Alors il a en partie raison parce que effectivement ce fonds de pertes et dommages, c'est quelque chose qui était réclamé depuis 20-30 ans par des petits États insulaires. Donc pour remettre en contexte, les pertes et dommages, c'est les conséquences irréversibles du changement climatique. Donc par exemple, ça va être quand des habitations sont détruites à la suite de catastrophes naturelles, ou ça va être des choses un petit peu moins palpables comme lorsque des populations doivent se déplacer à cause de la montée des eaux. et que du coup, elles perdent leurs habitudes, leur capital culturel, etc. Et donc du coup, à cause de l'amplification du changement climatique, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles et il y a de plus en plus de pertes et dommages. Et des États demandaient depuis des années qu'un fonds soit créé et qu'il soit financé par les pays du Nord, donc les pays qui sont responsables en fait du changement climatique. Et sauf que c'est pas eux qui payent, enfin comment dire, ce sont les pays du Nord qui sont responsables du changement climatique, mais les effets du changement climatique se voient dans les pays du Sud. Donc ces pays-là demandaient depuis longtemps un fonds de pertes et dommages et enfin ça a été accepté dans la COP27, donc en Égypte. Donc c'est quelque chose d'effectivement très important, surtout pour la société civile qui faisait ce plaidoyer depuis très longtemps. Donc François Gémen a en partie raison en disant que c'est une victoire, mais le problème, c'est que quelque part, on essaie de réparer les conséquences du changement climatique sans s'attaquer aux causes. Et les causes, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et rien n'a été acté dans ce sens dans l'accord en Égypte pour dire nous devons davantage réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Adrien Londres.
Oui, exactement. J'entendais le président du Sénégal expliquer que juste exactement ce que vous venez de dire, qu'on se rendait pas compte que c'était vraiment un énorme succès sur ça. Donc bon, je ne suis pas grand-chose par rapport au président du Sénégal, donc je pense que on va lui faire confiance. Maintenant, vous avez tout à fait raison, vaut mieux prévenir que guérir. Après, moi, ce qui me questionne, c'est le fonctionnement même des COP, mais qui ne peut pas... En fait, je sais pas comment faire autrement. C'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose... En fait, dans urgence climatique, des fois, climat écolo, on comprend, c'est urgence qu'on comprend pas trop. Et en fait, d'ici... certaines études nous disent que d'ici 2030, on sera déjà à 1,5 degré, donc on peut pas faire grand-chose. Et donc, les COP, donc là, vous avez cette première chose sur ce fond. Et ensuite, on sait pas encore vraiment qui va donner au fond, parce que ça, on verra ça à la COP l'année prochaine, à Dubaï, au passage. Il sera fourni normalement un peu plus l'année prochaine, mais quelque part c'est normal. Dans le temps diplomatique classique, c'est un petit peu long. Donc en fait, je me dis qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse sur cette question du fond pour aller plus loin. Il aurait fallu que tout le monde sache déjà qui va donner, etc. Là, je me dis que diplomatiquement, c'est pas simple. Donc voilà, il faut toujours se rappeler, la COP, il y a 200 personnes autour, 200 intérêts différents autour de la table qui sont aussi différents que le Bhoutan et l'Arabie Saoudite. Et en même temps, on est obligé d'emmener l'Arabie Saoudite, parce que si vous faites une COP sans l'Arabie Saoudite, alors que c'est eux les principaux producteurs de pétrole, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Maintenant, sur vous parliez des énergies fossiles. Bon, Ferris avait fait, Barkat avait fait une très bonne chronique la semaine dernière dans JPJA pour dire que...
alors JPJA, ça veut dire Je pense donc j'agis, qui est le nom de...
Pardon.
C'est notre code en interne, JPJA.
Je pense donc j'agis pour... Pardon, pour dire que c'est quand même incroyable de ne pas nommer les causes. Ça, honnêtement, j'aimerais bien, on parlait diplomatie, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on nomme pas les causes. Je comprends bien que c'est parce qu'il y a des intérêts de 650 lobbyistes qui sont venus pour parler des énergies fossiles. Enfin, on est quand même pas bêtes. J'ai tous les rapports qui nous expliquent que c'est le pétrole, le gaz et le charbon, voilà, bon. Et notamment, si on pourrait peut-être, Justine, vous voulez détailler un peu plus, par exemple, sur la position de l'Inde, moi qui me questionne un petit peu, puisque l'Inde était sur, si vous voulez mentionner le charbon, faut mentionner tout, etc., etc. Donc, voilà, il y a des, je sais pas, enfin, tout le monde sait de quoi on parle, mais on n'ose pas le dire.
Alors, pour rappel, lors de la COP26, dans le texte final, le charbon était mentionné, et la question c'était cette année de savoir si le gaz et le pétrole seraient enfin mentionnés. Justine Guiton-Bouisson, à ce sujet.
Alors, pendant la COP26, c'était uniquement mentionné et c'était une réduction qui était mentionnée. Alors que cette année, il y avait plusieurs pays qui plaidaient pour qu'on écrive noir sur blanc. En fait, il faut sortir des énergies fossiles. Si on veut garder un objectif de réchauffement de 1,5 degré, qui sera difficilement déjà atteignable, on peut pas parler uniquement de réduction. Il faut vraiment parler de sortie. Et comme le disait Adrien, en fait, c'est parce que il y a tous ces lobbyistes des énergies fossiles qui sont invités autour de la table au même titre que n'importe quel pays, forcément, ils réussissent pas à rentrer, à écrire noir sur blanc qu'il faut cette sortie. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Comme vous le mentionniez, l'année prochaine, la COP28, ce sera à Dubaï.
les Émirats arabes unis sont quand même un pays extrêmement producteur de pétrole. Donc on sait très bien que la sortie des énergies fossiles, ça sera pas écrit dans le texte de l'accord l'année prochaine non plus. Donc presque à quoi bon ? C'est super qu'il y ait eu ce fonds des pertes et dommages, mais si on s'attaque pas aux causes du changement climatique, malheureusement, il va y avoir encore plus d'argent à donner à ces pays.
Alors, et en même temps, une COP, c'est, on a pu entendre sur cette antenne des personnes dire, mais c'est extraordinaire, il n'y a pas d'autre endroit où des pays, autant de pays arrivent à se mettre autour de la table et à discuter. Donc, en soi, déjà, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et puis, on a pu entendre, par exemple, la climatologue Françoise Vimeux nous dire, s'il n'y avait pas les COP, on ne serait pas aujourd'hui sur la trajectoire sur laquelle on est, qui est, alors, selon les visions, entre plus 2,3, plus 2,6 degrés, je crois. Et elle disait, on en serait ce serait bien pire, quoi. Donc, en fait, quel est votre regard aujourd'hui sur, finalement, est-ce que déjà ces COP-là sont un modèle intéressant, ou est-ce que, comme a pu le dire aussi Yamina Saeb sur cette antenne, qui est membre du GIEC, il faut inventer un nouveau mode de gouvernance aujourd'hui pour ces COP? Est-ce que vous avez des idées là-dessus et une vision là-dessus, ou est-ce que c'est compliqué et finalement personne ne sait ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas lequel veut se lancer. Justine Guiton-Buisson?
C'est compliqué parce que effectivement, je pense que là, ce qu'on essaie de dire, c'est pas du tout que les COP ne servent à rien. C'est très important qu'ils continuent d'avoir toutes ces discussions entre les pays. Il y a pas de raison que certains pays discuteraient entre eux sans parler avec les autres. Il faut que ces moments de discussion se poursuivent. Mais par contre, on peut quand même se rendre compte que objectivement, en 2 semaines, même si ce fonds a été décidé, on est quand même vraiment très en retard. Et ce fonds, il aurait déjà dû être décidé il y a plusieurs années, et la sortie des énergies fossiles, elle aurait dû être décidée, pareil, il y a plusieurs années. Je pense effectivement qu'il faut inventer de nouveaux moyens pour garder cette discussion entre les pays, et peut-être que 2 semaines, une fois par an, c'est même sûr que c'est pas ça qui va nous faire avancer. Il faudrait limiter davantage les lobbyistes, ils devraient pas être autant présents dans ce genre d'événement. Après, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je me vois pas forcément inventer un nouveau modèle de COP. C'est un peu compliqué. Mais tout ça pour dire que les COP ne servent pas à rien, mais il faut aller beaucoup plus loin.
Adrien Loindre.
Oui, quand vous parliez, je me disais encore, il y a pas plus tard qu'un an et demi, 2 ans, on disait on sera à 3,2. Et puis avant, je me souviens même avoir des articles, on allait aller jusqu'à 7 ou 8. Bon, là, on nous explique qu'au gros maximum, on sera à 2,8. Alors, je dis pas que c'est bien, mais j'essaye de prendre du recul et de me dire c'est un petit peu mieux quand même. Donc, ce que vous disiez est complètement raison. En fait, c'est les gens qui nous disent, il y a plus un article qui dit attention, on n'est pas bon par rapport aux accords de Paris. Mais oui, mais en fait, si on dit qu'on n'est pas bon par rapport aux accords de Paris, c'est parce qu'il y a eu les accords de Paris. Donc, il a bien fallu qu'il y ait des COP pour les faire. Donc, je suis complètement d'accord avec vous, il y a des avancées. Après, ma question, c'est, est-ce que, j'ai pas la réponse, est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de ces COP? Est-ce qu'on n'attend pas un peu trop que ça soit descendant? Dans la sphère écolo, je ne pense pas, puisqu'il y a énormément d'actions civiles qui se font, donc je pense pas. Maintenant, est-ce qu'en général, je sais pas. Il y a d'autres espaces, je pense, des espaces notamment autour des mairies, les plus grandes mairies du monde, etc. Il y a énormément de choses, je sais que Paris est dedans, sur comment les municipalités vont réduire leur impact, donc il y a des choses comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis ni pour ni contre. Monsieur Macron nous fait quelque chose au mois de juin, encore un sommet climat au mois de juin. Après, moi, ce qui me questionne avec ces espaces de sommet climat, c'est à quel moment on est dans l'efficacité opérationnelle et à quel moment on est dans de la communication. Et en fait, ça me questionne qu'on organise des sommets climat alors qu'on n'est pas capable de respecter nous-mêmes nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais donc, les COP sont absolument utiles. Et je rejoins Justine, si jamais j'avais une autre méthode pour créer les COP, je serais peut-être pas là et je serais au gouvernement, mais voilà.
Je me souviens d'un message de Jacques. Il nous l'avait envoyé juste avant, au moment du lancement de la COP27, quand on avait fait une émission, JPJA, comme vous avez dit, Adrien, je pense donc j'agis. Il dit « Oui, j'espère en la COP27 sans attendre de miracle, mais rien n'est à négliger ». Voilà, je pense que ça vient un peu conclure ce sujet. On va écouter de la musique tout de suite avant d'attaquer notre troisième sujet. On va parler des méga-bassines dans quelques minutes. Quel est votre regard sur les méga-bassines? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou nous envoyer un mail à direct@rcf.fr ou bien nous rejoindre dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Mais tout de suite, La Corrida, Francis Cabrel. Est-ce que ça se présente? Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse écouter tout de suite.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
Francis Cabrel, vous avez reconnu ce tube, hein, La Corrida, chanson sortie en 1994.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et nos deux invités, Justine Guiton-Boussion et Adrien Louandre, on revient ce matin sur l'actualité de l'écologie. Après la corrida, après la COP27, on va s'intéresser au sujet des mégabassines. Et là aussi, vous avez la parole au 04 72 38 20 23.
Et les mégabassines, ce sont ces retenues d'eau géantes recouvrant plusieurs hectares. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, le projet qui a suscité la colère et provoqué des manifestations, c'était à la toute fin du mois d'octobre. Ce projet prévoit la construction de 16 mégabassines, la plus grosse d'une capacité de 650 000 mètres cubes environ, soit l'équivalent de 260 piscines olympiques. Les bénéficiaires sont 400 agriculteurs réunis au sein d'un groupement baptisé la COP de l'eau. Le principe est le suivant: l'hiver, de l'eau est prélevée dans les nappes phréatiques quand leur niveau est élevé. Cette eau est stockée dans des retenues à ciel ouvert, étanchéifiée par des bâches. Et l'été, quand l'eau manque, ces réserves sont utilisées pour irriguer. Alors les détracteurs de ces mégabassines parlent d'aberrations écologiques et dénonce un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. D'ailleurs, hier, 4 personnes étaient jugées à Niort suite aux manifestations de la fin du mois d'octobre. Ces personnes étaient accusées d'avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou dégradation de biens. Et donc, ces 4 personnes ont été condamnées à des peines de prison avec sursis et aussi à une interdiction du territoire des Deux-Sèvres. Alors, quel est votre regard, Adrien Louandre, Justine Bousson-Guiton, sur cette question des mégabassines? Pourquoi, enfin, est-ce pour vous d'abord une aberration écologique? Et puis, si oui, pour quelle raison? Justine Bousson, j'ai du mal à dire votre nom, j'y arrive pas, je vais y arriver avant la fin de l'émission.
Guiton-Boussion.
Guiton-Boussion, tout simplement.
Oui, effectivement, ces réserves d'eau, elles posent vraiment problème, puisque les études ont montré que ça fonctionnait pas forcément de toute façon ce stockage, que ce soit avec l'évaporation par exemple, et surtout ça pose question en fait du modèle de société qu'on veut et du modèle d'agriculture qu'on veut, puisque ces réserves d'eau, elles ne vont pas servir à des petits paysans, elles vont vraiment servir pour irriguer des grandes exploitations agricoles. Et d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui sont pour ces réserves d'eau et il y a des agriculteurs qui sont contre des réserves d'eau. Je le précise parce qu'il y a eu au début des polémiques pour faire croire que ce serait les écologistes contre les agriculteurs, alors qu'en réalité, il y a des paysans qui sont tout à fait contre ces réserves d'eau, et critiquent le modèle agricole que ces réserves suggèrent, alors qu'en réalité, on peut continuer à produire de la nourriture pour alimenter les Français sans s'accaparer l'eau, sans la stocker, sans la pomper depuis le sol, tout simplement en réduisant les fermes et en allant plus sur des grandes exploitations qui nécessitent d'être irriguées comme le maïs, par exemple. Donc en fait, c'est surtout ça que la question des mégabassines, c'est ça la question qu'elle pose selon moi, c'est vraiment de quelle écologie on veut.
Et quel modèle agricole, ça doit vous parler, Adrien Land, vous qui êtes militant du mouvement rural de jeunesse chrétienne et qui vivait et qui avait grandi dans une région marquée par l'agriculture.
J'allais presque dire mot à mot ce que vous venez de dire.
Pardon.
Donc voilà. Alors au NRJC, on a une petite chanson. Alors je ne vais pas la chanter à l'antenne comme ça, mais qui est trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Et je pense que c'est ça en fait. Moi, ce qui me gêne derrière ça aussi. Au-delà de, on parlera après de la question de la répression et des termes d'écoterrorisme, mais c'est qu'on n'arrive pas à se dire on va essayer d'inventer autre chose. Enfin, faut quand même se dire les choses. Une immense majorité des, énormément on va dire, pas une immense majorité des sols en France sont morts en fait, sont juste morts. Et on les, on leur fait un massage cardiaque constant avec, j'arrive pas à avoir l'image correcte, mais avec des engrais, etc. Mais objectivement, non. Enfin, l'agriculture en ce moment, cette agriculture ultra intensive tue en réalité nos sols. Et la question, c'est comment on va les faire revivre. Donc, exactement ce que disait Justine, avec un autre modèle d'agriculture. Et excusez-moi, je vais redire mot à mot ce qu'elle a dit, mais parce que je pense que c'est très très important. On n'est pas dans une lutte écologiste contre agriculteurs. Vous allez avec des gens, et pas que des gens de la Confédération paysanne, vous avez énormément de paysannes, de paysans, qui d'agriculteurs qui ne sont pas pour ce modèle de méga-bassine. Et c'est pas du tout une critique contre ces gens qui font leur métier. Enfin, agriculteur, c'est un métier très très dur. C'est pas juste un cliché de on se lève à 5h du matin, on se couche à 23h. Donc on n'est vraiment pas dans une opposition. Moi, je tiens vraiment très fortement à ça. Maintenant, je pense pas que ce soit même une bonne chose pour les agriculteurs et les agricultrices de tenir grâce à des systèmes de méga-bassines. Je pense qu'on a autre chose à faire. Et surtout, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le modèle qu'on imagine, c'est le modèle qu'on subventionne. Et on peut sortir de ce modèle-là. Parce que les subventions, en fait, il y a quelque chose aussi au niveau européen qui est que, en gros, plus vous êtes gros, plus vous avez de subventions, pour faire très simple. Et ça, les méga-bassines, ça va à l'intérieur de toute cette logique, et je pense qu'il y a effectivement autre chose à inventer en termes de subventions agricoles et d'autres systèmes à inventer en termes d'irrigation.
Mais la question, finalement, c'est celle de la transition, c'est comment on passe du modèle actuel au modèle que vous appelez de vos voeux, et puis qu'est-ce qui se passe pour ceux qui vivent l'agriculture en ce moment, quand par exemple un agriculteur de Sainte-Soline, et on a pu en entendre plusieurs, dit « moi, si vous m'enlevez l'arrosage, je peux plus vivre de mon métier », qu'est-ce qu'on lui répond en fait, Justine?
Justement, quand on me dit qu'il faut repenser l'agriculture, c'est qu'il faut repenser aussi les productions qu'on fait. Parfois, les grandes exploitations agricoles qui nécessitent d'être irriguées, ce sont pas des cultures qui vont nous servir à nourrir nous, humains, c'est des cultures qui vont servir à nourrir le bétail et qui ensuite, le bétail va servir à nourrir une partie des humains. Donc en fait, si on va sur quelque chose déjà de très simple, de réduire la consommation de viande, je dis même pas de la supprimer, mais de la réduire, et ça aurait plus, ça laisserait plus de place à des cultures pour vraiment nous nourrir nous et pas nourrir le bétail. Et effectivement, il va falloir arrêter, en fait. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire à certains agriculteurs. Il va falloir arrêter certaines productions, celles qui nécessitent trop d'eau. Il va falloir envisager d'autres cultures, et il en existe qui nécessitent moins d'eau et qui pourraient être plus résilientes avec le changement climatique. Et le but, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans une opposition fausse, les écologistes contre les agriculteurs, et il faut en discuter. Et le problème, c'est que ces méga-bassines, elles ne sont pas non plus discutées, et beaucoup de personnes du territoire, parce que les gens qui vont manifester là-bas sont vraiment des gens qui sont implantés dans le territoire, ils ont l'impression qu'on leur impose quelque chose et qu'on leur prive d'eau qui devrait être un bien commun, sans qu'on leur demande leur avis et sans qu'ils puissent réellement en discuter avec les agriculteurs. Et d'ailleurs, ces méga-bassines qui sont censées servir aux agriculteurs, je pense, et beaucoup de personnes à qui je parle sur le terrain, pensent aussi que ce n'est pas réellement un accompagnement. Les agriculteurs, effectivement, il ne faut pas les laisser comme ça. On ne peut pas leur dire « maintenant, débrouille-toi avec le changement climatique ». Il faut les accompagner. Mais la question, c'est de se demander est-ce que ces bassines gigantesques qui vont accaparer l'eau pour une poignée d'agriculteurs, est-ce que ça, c'est réellement un accompagnement ?
Vous appelez de vos voeux le dialogue, mais comment on l'organise, ce dialogue? Quand Delphine Bateau, par exemple, qui est députée des Deux-Sèvres, réclame l'organisation d'un référendum local, comme le permet le Code de l'environnement, est-ce que c'est une piste intéressante pour vous? Quels seraient les autres pour permettre ce dialogue large entre agriculteurs, écologistes et tous ceux qui, finalement, sont les personnes qui ont besoin de l'eau, c'est-à-dire nous tous, Adrien Loindre?
Donc effectivement, oui, je pense qu'un référendum, c'est une bonne solution. Et après, il y a un espace qui s'appelle la Chambre d'agriculture, qui, je pense, peut aussi être un espace intéressant de débat. Mais là où vous avez aussi raison, c'est que ça peut pas rester uniquement, je pense, entre les agriculteurs et les agricultrices d'un côté et les écologistes de l'autre. D'ailleurs, ce qui veut rien dire, puisqu'il y a des écolos chez les agris et les... Enfin bref, voilà. Non mais je préfère le redire à chaque phrase, parce que si au moins il y a un truc qu'on retient de cette émission, c'est il faut sortir de l'opposition entre agris et écolos. Voilà, et donc ça peut être un espace intéressant, mais c'est aussi comment les citoyens et les citoyennes se prennent en main cette question. Et alors là, c'est l'autre côté du MRJC, qui est le côté animateur, qui est de dire il y a énormément d'outils autour des fresques. Alors tout le monde connaît la fresque du climat maintenant, quasiment, mais il y en a beaucoup d'autres. Je pense à la fresque de la biodiversité, qui est très bien. Je pense à des gens qui ont fait une fresque qui s'appelle Agrialim, donc comme son nom l'indique, hein, sur l'agriculture et l'alimentation. Et il y a une troisième spécifique sur l'agriculture. Donc il y a vraiment énormément d'outils très simples. Alors ça peut paraître sans jeu de mots, ça peut paraître bateau comme ça, mais il y a vraiment un outil autour de là-dessus. Mais après, ça pose d'autres questions qui sont autour du fait que prendre en main ces outils-là, c'est très long. Mmh. Enfin, genre, quand vous ne connaissez pas nécessairement ce sujet, c'est très long.
C'est un sujet flottant. Marc nous a rejoint. Bonjour Marc.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben ça va très bien, et vous donc?
Ça va, mais je trouve que vos émissions vont vite aujourd'hui.
Oui, alors parce qu'en fait, on revient sur quelques sujets en une fois, voilà. Mais bon.
C'est bien. Bon, c'est bien.
Ah moi, super.
J'essaye de suivre. Hein.
Alors allez-y.
C'était très intéressant, comme d'habitude. Donc voilà, je me présente professionnellement. J'étais donc dans l'hydraulique urbaine et fluviale et en ressources en eau dans une société en ingénierie qui s'appelait Segrea, qui est une grande société d'ingénierie qui fait des modèles mathématiques et physiques et qui travaille en France en particulier et dans le monde entier. Et j'ai participé donc à un tas d'études hein, avec des ingénieurs, etc., en tant que technicien. Et les méga-bassines, j'ai vu un peu ce qui se tramait en Haute-Savoie sur le domaine skiable de la Clusa, pour faire des ressources en eau pour les canons à neige.
Oui.
Et il y a eu donc une réaction d'associations, etc. Moi, je n'ai pas trop suivi, mais le peu que je sache, et ma vision, moi, sans entrer dans les débats pour, contre, etc., je sais que quand on fait une étude, il faut faire une étude d'impact, déjà. La question, c'est... Est-ce que ce genre d'intervention dans le milieu naturel pour, par exemple, créer des ressources pour des canons à neige va déséquilibrer la faune et la flore? Voilà, en particulier dans ces cas-là.
Donc c'est la question que vous nous posez ce matin, Marc, hein, c'est ça ?
Par rapport à cette méga bassine qui a été en projet. Voilà. Donc je fais juste un petit...
Oui, rapidement si possible, parce que ouais, il faut qu'on passe à la suite.
Et donc j'ai aussi un petit clin d'œil vite fait, hein, concernant un petit livre sympa qui s'intitule « La Terre, c'est par 120 autrices et auteurs, texte illustré par Jacques Coche ». Et je vais vous lire juste un petit texte. « La Terre, c'est une vieille dame essoufflée qui perd un peu la boule, mais qui ne peut s'empêcher de croire que ses enfants finiront bien par lui tendre la main afin qu'elle retrouve son chemin. » Julien Rampin.
Eh ben, merci beaucoup. Merci Marc, merci de nous avoir appelés, c'était très intéressant. Adrien Louandre.
Ah non,
rien à dire.
Peut-être sur la question des études d'impact, Justine Guiton-Buisson, il y en a eu dans le cas des mégabassines. Ouais.
Il y en a eu effectivement, et là la retenue collinaire dont cet auditeur nous parlait, c'est encore différent, puisque là c'est pas pour l'agriculture, c'est à destination des canons à neige, et donc c'est pour maintenir une autre sorte d'activité, le tout ski, même quand on sait que ça est de plus en plus difficile de faire du ski en station, parce qu'on va manquer de neige, et donc peut-être qu'au lieu de créer des retenues collinaires pour retenir l'eau et continuer sans cesse dans le ski, peut-être qu'on pourrait aussi éventuellement trouver d'autres activités à faire à la montagne.
Bon, voilà un sujet d'émission, ouais. Melchior, pour bientôt.
Ah bah, avec plaisir.
Avec la saison qui va s'ouvrir.
On aurait pu accueillir Brigitte qui voulait nous en parler également, mais là, on ne va pas avoir le temps puisqu'on arrive vraiment à la toute dernière partie de cette émission.
Avant, moi, j'aimerais bien qu'on ait le temps quand même de parler. Tout à l'heure, Adrien parlait des mots, qu'on ait le temps de parler de ce qui s'est passé suite aux manifestations à Sainte-Soline contre les mégabassines et notamment à l'emploi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin du mot écoterrorisme pour qualifier l'attitude d'une partie des manifestants. Pourquoi, Adrien, ça fait plus que vous agacer, je pense. Pourquoi ça vous énerve à ce point et qu'est-ce que ça engage comme... comme débat.
Ça m'énerve à ce point parce que, en fait, on n'est pas sur quelqu'un qui travaille. Gérald Darmanin, on est sur quelqu'un qui fait de la communication et qui va attiser les colères dans le débat public, qui va attiser la haine des gens les uns contre les autres, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Moi, je ne soutiens pas les... Personnellement, il y a des violences. Enfin, pour moi, le mouvement écologiste est inhérent à la non-violence. C'est la base. Maintenant, alors, on va se remettre quand même, juste, je me répète, hein, le terroriste, c'est les gars du Bataclan. Juste. Allez comparer des paysans et paysannes qui, bon, certes, ne font pas forcément que des choses exceptionnelles, mais quand même sont simplement en train d'exprimer leur avis et de faire de la politique, en fait, tout simplement. Et aux dernières nouvelles, la démocratie, le principe même de l'Assemblée nationale et de la démocratie, c'est d'exprimer des rapports de force, c'est d'exprimer des conflits. C'est normal qu'il y ait des conflits. Un système où il n'y a pas de conflit, c'est un système totalitaire. Hein. Dans le nazisme, il n'y a pas de conflit. Hein. Enfin, à l'intérieur du nazisme, ça, vous inquiétez pas, Nuremberg en 35, ils étaient tous d'accord. Donc, à un moment donné, nous exprimer que je veux dire, ils comparent des paysans et des paysans. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est grave. Excusez-moi d'en faire un plat, mais je veux dire, on compare, je me répète parce que vraiment, des terroristes du Bataclan à des gens qui ont juste un modèle d'agriculture différent. Et Monsieur Darmanin appelle ça faire de la politique. Mais je suis désolé. Et après, on va nous dire, ah, on comprend pas les gilets jaunes, on comprend pas pourquoi les gens s'engagent plus en politique. Bah, peut-être parce que vous nous criminalisez à chaque fois qu'on fait un truc. Et en plus, et c'est pas anodin, c'est un élément de langage, c'est pas juste. On pourrait dire, bon, allez, sa langue a fourché, on lui pardonne. Non, c'est un élément de langage qui sont allés répéter sur tous les plateaux. Et d'ailleurs, ce qui me questionne un petit peu, c'est qu'ils sont justement pas forcément nécessairement assez questionnés sur ce qu'ils disent. C'est-à-dire que peut-être que des fois, en toute fraternité, j'aime énormément le journalisme, mais qu'il y a certains journalistes qui pourraient peut-être les piquer un petit peu plus et de se rendre compte de ça. Et je reviens sur le terme d'éco-totalitarisme, dans lequel ils vont nous affûter, nous, les associations, etc. Et bien, je suis désolé, le totalitarisme, c'est le goulag. C'est les camps de concentration. Enfin, je suis désolé, vous comparez des paysans à des gens qui organisent le goulag. Moi, je... Enfin voilà, je pense qu'on a compris l'idée, mais c'est pas possible. Juste, il y a quelque chose à faire au niveau du débat public là-dessus et au niveau des même. Enfin, je sais pas. Nous, faut qu'on prenne la parole pour dire c'est pas possible de tolérer des choses comme ça. Et les haines dans la démocratie dans la République viennent de là parfois. C'est mauvais pour la République ce qu'ils font.
Justine Guitton-Buisson, vous partagez cette colère-là?
Entièrement et juste en une phrase, l'écoterrorisme en France, ça n'a pas de fondement juridique. L'écoterrorisme dans le code pénal français, ça n'existe pas en fait. Donc là, Gérald Darmanin invente un terme pour qualifier des manifestants. Donc on voit très bien que c'est pour... Il détourne ce terme, il fait un lien avec les terroristes que nous on connaît comme étant les terroristes islamistes. Il fait un lien extrêmement douteux uniquement dans le but de décrédibiliser une mobilisation pour dire... Voilà, ça ne sert à rien d'écouter tous les arguments que peuvent vous donner ces personnes qui sont opposées aux méga-bassines, parce qu'en fait, ce sont des criminels. Et en faisant ça, il ne permet pas le débat dont on parlait tout à l'heure et qu'on veut, en fait, cette discussion du modèle agricole qu'on veut. On ne peut avoir que cette discussion. Enfin, il faut discuter. Et Gérald Darmanin balaye cette possible discussion en décrédibilisant le mouvement.
Et si on va plus loin, enfin, on voit que se pose toute une question autour des nouvelles formes de militantisme. Enfin, est-ce qu'elles sont nouvelles d'ailleurs? En tout cas, elles apparaissent comme telles, de militantisme écologiste, où il est question de plutôt d'actions non violentes, mais qui sont lues comme certains par comme violentes. Enfin, par exemple, la soupe sur les vitres de tableaux. Certains estiment que c'est d'une grande violence. Comment vous regardez ça et puis tous les débats qui ont lieu autour de ça, Justine Guitton-Buisson?
Bah, moi, je trouve ça passionnant de voir en tant que journaliste que de nouvelles, entre guillemets, en tout cas différentes formes d'action se multiplient. Il y a effectivement, vous en parliez, des activistes qui vont jeter de la soupe sur de la vitre, pas les œuvres d'art, mais la vitre des œuvres d'art. Il y a des personnes qui vont bloquer des routes pour réclamer la rénovation énergétique. Je pense que la multiplication de ces actions montre à quel point la société a besoin d'action climatique, a besoin d'action de la part des gouvernements, et c'est ni plus ni moins un désespoir en fait qu'on voit en tant que journaliste. Pourquoi est-ce que les gens ils vont passer du temps à bloquer un pont? Parce qu'en fait ils demandent réellement des actions, et alors ça passe par différentes stratégies. Certains vont aller directement sur du sabotage de chantier, comme on a pu le voir avec les méga bassines de Sainte-Soline. D'autres vont rester sur quelque chose de plus pacifiste en bloquant une route. Il y a une multiplicité d'actions, mais il y a une seule volonté, c'est enfin une action des gouvernements.
Adrien Loindre.
Oui, très rapidement. Pour moi, s'il y en a qui bloquent les routes, enfin, pareil, moi je suis désolé, hein, c'est Darmanin qui bloque les routes. Hein. Je suis désolé, c'est pas dernière rénovation, parce que dernière rénovation, on va dire oui, techniquement, c'est les militants de dernière rénovation qui sont sur les routes. Non mais attendez, ils sont sur les routes pour répondre à une inaction du gouvernement et à une inaction... Enfin, qui veut dire, le gouvernement signe les accords de Paris, dit on va faire ci, on va faire ça, ils le font pas. Bah oui, bah le principe de la démocratie, c'est que quand on respecte pas ses propres engagements, il y a des gens qui ont le courage d'aller dire, ben non, en fait, il y a des moments, c'est pas normal, et on va vous forcer à faire ça. Je veux dire, dernière rénovation, c'est pas des intégristes, hein. C'est juste des gens qui disent, nous, on veut pouvoir rénover les bâtiments. Ça veut dire quoi, rénover les bâtiments? Ça veut dire que Martine, 65 ans, qui a travaillé toute sa vie, là, elle va pas pouvoir mettre son chauffage cet hiver, surtout à cause de l'inflation. Et donc, on a des gens qui sont dans une extrême pauvreté. Je vous invite à lire le rapport du Secours catholique sur la pauvreté qui sort chaque année en novembre. On est dans des gens qui sont dans une extrême pauvreté, qui ont donné toute leur vie, ils ont peut-être donné leur vie entière à la République, et ils vont pas pouvoir se chauffer à 65 ans, et on va nous dire que les criminels, c'est des gens qui vont bloquer les routes pour dire que Martine a le droit de se chauffer. Enfin, je veux dire, et on va nous opposer dernière rénovation et Martine. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Donc c'est Darmanin qui bloque les routes, c'est rien à dire là-dessus.
Pourquoi Martine comme prénom, Adrien? Allez, on arrive à la toute fin de cette émission avec une rubrique qu'on a baptisée « Les oubliés de l'actu ».
Oui, alors il va falloir très très vite faire très très vite aujourd'hui. Vous avez une minute chacun pardon, pour nous exposer un sujet d'actualité de l'écologie du mois qui est un peu passé inaperçu mais qui pour vous est important. Justine, on commence par vous.
Oui, moi je voulais vous parler plus globalement de la liberté d'informer sur l'écologie parce que c'est une liberté qui est de plus en plus attaquée. Je vous dis ça parce que mercredi prochain, un journaliste de Reporter sera jugé à Rodez. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, il a réalisé un reportage sur des faucheurs volontaires. Donc pour vous remettre en contexte, les faucheurs, ce sont des activistes. En novembre 2021, ils sont entrés illégalement dans les entrepôts d'une entreprise de l'Aveyron pour rechercher des semences OGM, génétiquement modifiées. Notre journaliste, il a suivi cette action. Il a discuté avec les militants pour comprendre leurs revendications. Il a publié sur Reporter un reportage écrit avec des photos. En bref, il a fait son travail. Et pourtant, il est aujourd'hui poursuivi par la justice, comme s'il était l'un des militants. Et moi-même, il y a 2 ans, j'ai été verbalisée parce que je couvrais une manifestation à l'aéroport de Roissy. Donc, si j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est pas qu'un enjeu pour notre média Reporter. C'est un enjeu pour tous les journalistes et pour tous les Français qui ont le droit d'être informés correctement sur l'écologie. Et si on a pu parler aujourd'hui dans cette émission de toutes ces nouvelles formes de militantisme écolo, c'est bien parce que des journalistes vont sur le terrain tous les jours pour faire leur travail, pour nous le raconter.
Merci Adrien, vous avez 30 secondes.
Adrien Louandre.
Je voulais vous parler de 3 choses, mais je ne vais pas parler des 3. De 14 maires qui ne vont plus emprunter aux banques suite à l'affaire BNP, qui a été lancée notamment par Oxfam et les Amis de la Terre. On tient à les saluer qui font un super travail. Je voulais aussi vous parler de la Colombie qui a lancé un impôt, une réforme historique pour taxer les plus riches et les énergies fossiles. Ça, franchement, c'est pas mal. Et comme j'ai 30 secondes, je m'arrête là.
Eh ben, merci beaucoup, Adrien Louandre. Et Justine Guiton-Boussion, c'est ça votre nom de famille, Justine ?
C'est tout à fait ça.
Ah, voilà, parce que,
il y avait débat entre nous.
Il y avait débat, oui. On a entendu 15 versions de votre nom de famille pendant cette émission.
En tout cas, on peut aller lire vos articles et puis d'autres aussi sur reporter.fr, on le rappelle.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne-Kerléo. Un autre sujet d'actualité, c'était vendredi dernier, pourtant on en parle tout le temps, c'est le Black Friday. Comment est-ce qu'on peut essayer de changer nos modes de consommation ? On en parle dans un instant avec nos invités et vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. À tout de suite.